La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose.
Football Magazine.
Du foot, plein les oreilles.
h 04, madame, monsieur, bonne année, meilleurs vœux, plein succès, de la santé. Et sur le plan sportif, bien évidemment, on souhaite à notre équipe nationale d'aller le plus loin possible dans la compétition et pourquoi pas de monter sur la plus haute marche du podium. Ça, c'est les vœux pour 2026. Et à la Coupe du Monde également, on l'oublie pas. La Coupe du Monde où on souhaite à notre équipe nationale d'aller plus loin que le premier tour. Huitième de finale, quart de finale, pourquoi pas. Eh bien oui, c'est les vœux, c'est la période des vœux. Faut pas hésiter, il faut y aller. Et ça, c'est au nom de toute l'équipe du service des sports de la chaîne 3, les vœux, qu'on vous présente. Alors, on va aller 3 sur 3, 9 sur 9, ça c'est des chiffres. 3 victoires sur 3, 9 points possibles sur 9, réalisés par notre équipe nationale qui se qualifie en terminant à la première place avec une défense qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition, qui aura marqué 7 buts depuis l'entame de la compétition, avec une osmose entre anciens et nouveaux, puisque 7 joueurs de 2019 sont présents sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe d'Algérie que beaucoup de spécialistes déjà placent comme et un potentiel favori pour le sacre final. Mais le chemin est encore long, gardons les pieds sur terre, prochain adversaire. On va décortiquer cette équipe de la République démocratique du Congo. On fera le point également après son premier tour. On parlera d'arbitrage, de l'arbitre égyptien désigné pour Algérie République démocratique du Congo. Avec Alioum, on analysera les comportements des arbitres sur le premier tour. Et on ira sur les affiches des huitièmes de finale de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À la réalisation, Foued Hamadi, merci de nous faire confiance. On est ensemble jusqu'à midi. Il est avec nous en direct. Eh bien oui, c'est consultant Coupe d'Afrique. C'est Mourad Ouardi. Bonjour Mourad.
Bonjour à vous. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes voeux à tout le peuple algérien d'ici et d'ailleurs, à toute l'équipe de la chaîne 3.
Merci.
Qui vous accompagne et à tout le personnel de la radio nationale, toute chaîne confondue.
Merci encore une fois, Mourad Ouardi, d'être avec nous pour justement analyser le comportement d'équipe. Alors, toute première question, Ouardi, mission accomplie, 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires, 9 points sur 9, possible pour le 11 national, 7 buts marqués, un seul but encaissé.
Bon, je dirais que notre équipe a bouclé convenablement ce premier tour, hein, avec une impressionnante maîtrise et une certaine sérénité qui ont marqué tous ceux qui suivent ce tournoi. Depuis le premier match face au Soudan jusqu'à cette dernière rencontre contre la Guinée équatoriale, on a pu observer une équipe capable de gérer toutes les situations, tant sur le plan tactique que sur le plan, bien sûr, qui est important psychologique. Les joueurs ont montré une cohésion remarquable, une discipline collective et cette capacité rare à imposer un rythme de jeu, même dans les moments où le score semblait leur sourire un peu trop rapidement, surtout contre la Guinée équatoriale. Le match de la Guinée équatoriale, je dirais qu'il illustre. Il illustre parfaitement ce que cette sélection a construit ces dernières années. L'Algérie est entrée sur le terrain avec une équipe remaniée, donc la profondeur, elle est assurée, laissant repos plusieurs cadres, mais sans jamais sacrifier, je dirais, l'efficacité, ni la maîtrise du jeu. C'est très important. Dès les premières minutes,
Mourad, moi je suis entièrement d'accord avec vous, mais quand même, on a vu deux visages de l'Algérie. En première mi-temps, une équipe dominatrice, trois buts claqués, de belles phases de jeu. En seconde mi-temps, c'est un peu compliqué la vie.
Enfin, c'est compliqué la vie, tu sais, en football.
Il y a eu comme de la déconcentration.
Ah oui, il y a trop souvent de la déconcentration. Parce que déjà au départ, l'Algérie semblait partir avec un handicap qu'on a tous connu. Hein. Les matchs de Tours et les premiers matchs qui nous faisaient défaut. Donc l'équipe, le fait d'avoir déjà acquis son ticket pour les huitièmes de finale, le match en première mi-temps, il a été, il a été à la hauteur, l'art et la manière, une fluidité technique et une présence athlétique et une solidité collective. Je dirais en deuxième période, avec des changements qui sont intervenus par-ci et par-là, bien sûr, parfois, il y a cette sortie de match sur un plan mental. Mais ce qui est sûr, c'est que la profondeur de l'équipe nationale a assuré la bonne suite pour Petkovic, parce que vous devez savoir qu'il va y avoir des matchs à couteau tiré, à commencer par,
On va y aller sur le match de la RDC, pas tout de suite. Moi, je voudrais rester encore sur le premier tour. Le match référence, c'est le Burkina Faso.
Moi, je dirais il y a eu du référentiel, bien sûr. Il y a eu le départ contre le Soudan, hein, parce qu'il y avait la peur. L'équipe nationale a bien négocié son premier match. Ensuite, il y avait bien sûr cette équipe du Burkina Faso qui nous a jamais facilité la tâche. C'était une équipe qui présentait un peu différemment la solidité des uns et des autres. Nous sommes solides techniquement, nous sommes plus rapides, nous sommes plus collectifs contre une équipe qui présentait, je dirais, une force athlétique, et on l'a vu pendant pratiquement tout le match. Ensuite, il y avait cette première mi-temps qui contre toute attente, il y avait la sortie prématurée de Hajem. La solution s'est faite tout de suite, rapidement trouvée par Petkovic. Aïtnouri décalé en défenseur côté gauche. Ensuite, il y avait cette rentrée qui, à mon avis, entre parenthèses, devait être tout de suite dans le match, en l'occurrence Bounedjah, parce que contre des équipes athlétiques, il nous faut des athlètes, des battants, des combattants, des joueurs qui pouvaient gêner un petit peu l'arrière-garde burkinabaise, parce que on a pratiquement coupé toute transaction qui venait de derrière. On les a obligés de paniquer, de jouer trop long. Donc, quelque part, la rentrée de Bounedjah a mis un petit peu, a fait un désordre défensif, de construction offensive de l'équipe burkinabaise. C'est vrai que c'est un match référentiel. Pourquoi ? Parce que vous allez me dire que le Congo, si je peux me projeter,
il y a des similitudes.
Des similitudes, mais le Congo, elle est plus sereine. Elle est plus sereine. Elle se met pas tout de suite à paniquer, contrairement à l'équipe du Burkina qui voulait tout de suite revenir au score. Elle s'est laissée prendre. On aurait pu encore marquer un deuxième et pourquoi pas un troisième but, mais bien sûr. La réflexion de Petkovic, les solutions de Petkovic, c'est pas d'aller encore marquer parce qu'il a vu que quelque part l'ascendance du Burkina pouvait peser sur une défense qui était un petit peu dans la gêne. Donc, Blaïd est rentré, un attaquant est sorti, en donnant plus de possibilités offensives à Belrali, donc il occupait le 2-1. C'est être là défensivement et pourquoi pas aider à chaque fois quand il fallait notre attaque. Donc je crois que c'était un pari gagnant. Maintenant, le cahier où je dirais le livre est ouvert. Hein, ils sont là-bas.
Alors justement, si vous permettez, vous dites le livre est ouvert. Vous parlez du jeu algérien. Mais oui. Ce qu'on aura remarqué avec Petkovic, c'est cette capacité, cette flexibilité, le mot revient à chaque fois, dans le jeu de l'Algérie.
C'est ce qui a fait la force. Maintenant, la flexibilité, parfois, elle se doit d'être un peu réfléchie. On est flexible, bien sûr, mais on est flexible derrière une organisation.
Eh ben, c'est ce que je dis. C'est sûr que c'est une flexibilité réfléchie de la part de l'entraîneur, selon les situations qui se présentent. Et je voudrais juste rajouter, si vous permettez, je ne sais pas si vous partagez mon avis, c'est la bonne lecture de l'entraîneur national.
Oui, il a été là dans des situations difficiles, hein. Dans une situation où, au départ, il voulait, fermer les côtés, hein. Côté droit et côté gauche. Ensuite, il y avait la sortie de Hedjem, un changement rapide. Ensuite, la gestion du score. La gestion du score, il y en a ceux qui pouvaient dire et qui peuvent dire qu'on aurait pu peut-être marquer encore davantage. Mais non, l'entraîneur, il est là pour observer. Et il n'est pas là pour donner la chance à un joueur ou faire jouer un joueur pour le plaisir. Non, il observe la force des uns et des autres. Il a compris qu'il y avait une force qui pouvait revenir au match, celle du Burkina Faso. Donc il a déverrouillé un petit peu les côtés. Il a laissé la profondeur burkinabaise. Il a essayé de... il a laissé pour trouver un petit peu les solutions sur le côté. Ensuite, les profondeurs, ils ont été paniqués. Ils ont paniqué, ils ont commencé à balancer des balles qui, avec trois défenseurs dans la charnière centrale, je crois qu'ils ont anéanti toutes les forces de cette dernière. Donc je crois que Petkovic a réussi, un, de faire basculer le match en première mi-temps. Ensuite, il a géré cette avance convenablement dans une situation de jeu qui était plus du côté burkinabé que du côté algérien. Donc je crois que cette lecture parfaite de l'entraîneur peut bien sûr, avec une profondeur, hein, qu'on a vue contre la Guinée équatoriale, je crois que les solutions existent, mais les matchs ne se ressemblent pas, maman.
Tout à fait, les matchs ne se ressemblent pas. Merci pour la transition. Vous restez avec nous, Mourad Ouardi. On va se projeter maintenant, parce qu'on va faire la projection sur ce match contre la République démocratique du Congo. Tout d'abord, on va écouter les joueurs de l'équipe nationale, à commencer par Fels Chaibi, qui parle déjà, qui se projette sur ce 8e de finale.
Maintenant, la CAN, c'est une grande compétition. Hein. Pour aller gagner le trophée, va falloir passer par tout le monde. C'est sûr qu'on n'a pas le tirage le plus facile par rapport à d'autres équipes, mais pour aller gagner, il va falloir battre tout le monde et c'est ce qu'on va essayer de faire sur le terrain.
Toujours sur les réactions de joueurs, avec Hadj Moussa, l'attaquant du 11 national.
On est impatient, c'est un 8e de finale. On veut jouer tous les matchs à fond, donc très impatient. Et c'est une très bonne équipe du Congo. On a regardé le dernier match. Personnellement, moi, je l'ai regardé. Ça a été un très bon match et ils sont très bons. Mais je pense qu'on a les joueurs pour remporter ce match et on va pas y aller de main morte.
Mourad Ouardi, c'est une nouvelle compétition qui débute, quand je dis une nouvelle, sur la forme, bien évidemment.
Ah oui, hein, tout change, hein, tout change. Hein. Le mental doit être bien, mis sur orbite, parce que ça joue sur un coup, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Ça peut aller jusqu'au tir au pénalty, donc toute la gestion doit être bien comptabilisée sur tous les plans, hein, à partir d'une préparation mentale importante. Et je crois avec les trois matchs gagnés successivement avec l'art et la manière, le mental il y est, mais il ne faut pas qu'il sorte du contexte, parce qu'il y a un autre contexte de jeu, c'est celle des huitièmes de finale. Chaque équipe veut en découdre contre l'autre. Chaque équipe a ses atouts à faire valoir. Donc derrière tout ça, il faut chercher la meilleure combinaison possible de gestion de match, de présentation de l'équipe, de la mise en place tactique, des questionnements avant les difficultés, les réponses qu'il faut pour des situations. Donc tout ça, c'est une lecture de part et d'autre. J'espère que la lecture de Petkovic saura prendre à défaut celle du Congo démocratique.
De Sébastien de Sable, merci. Vous restez maintenant avec nous. Islam Terzib, bonjour.
Bonjour, Mamar.
Vous allez nous parler, nous décortiquer cette équipe de la République démocratique du Congo. On dit que c'est une équipe qui est sur une dynamique de victoire.
Oui, Omar, les Léopards de la RDC se présentent à la CAN avec un effectif renouvelé. Près de la moitié du groupe, soit 11 joueurs, découvrent la compétition continentale comme Stroikens ou encore Sadeki. Cette jeunesse est encadrée par un noyau expérimenté évoluant dans les championnats européens expérimentés, à l'instar de Cédric Bakambu, qui joue au Betis Séville, ou encore Chancel Mbemba, qui est coéquipier de Aïssa Mendy à Lille. Donc, en phase de poule, la RD Congo a assuré l'essentiel. Elle a débuté par une victoire laborieuse mais précieuse contre le Bénin, 1-0, avant d'obtenir un nul encourageant contre le Sénégal, l'une des meilleures équipes d'Afrique. Pour finir, sur une victoire de 3-0 contre le Botswana. Ses performances lui ont permis de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe D. Sur le terrain, la RDC privilégie l'efficacité à la possession. Face au Sénégal, l'équipe a montré une grande solidité défensive, acceptant de laisser l'initiative à l'adversaire pour mieux frapper en transition. Ce qui nous assure une confrontation de style, selon Xavier Béret, journaliste spécialiste du football africain.
On sait que les Algériens, c'est des joueurs très techniques, avec une vraie discipline tactique. On les a vus à l'œuvre d'ailleurs déjà dans cette compétition avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est un groupe rajeuni, avec quelques anciens encore pour les encadrer. En face, la RDC, c'est une équipe avec d'abord des qualités athlétiques. C'est des joueurs souvent extrêmement durs au mal, et les Algériens ont toujours beaucoup de mal face à ce genre d'équipe. Ils les redoutent. Donc on aura une opposition de style qui promet effectivement d'être passionnante, parce qu'il n'y a pas vraiment de favoris, même si l'Algérie termine en tête de son groupe. Les Congolais, c'est un sacré client.
Ils ont raison de dire c'est un sacré client. On va parler maintenant du sélectionneur, Sébastien De Sabre. On le connaît en Algérie, il était à la JSAOA, il a fait 2 matchs à la JSAOA, il avait été viré par la suite. Alors Sébastien De Sabre, c'est quelqu'un qui gère aussi les attentes en coulisses. Quand vous dites en coulisses, c'est-à-dire qui gère tout simplement le vestiaire de la RDC.
Absolument. Cette approche tactique est doublée d'une communication calculée de son sélectionneur, Sébastien De Sabre. Après la victoire contre le Bénin, il a volontairement tempéré l'enthousiasme en mettant en avant la différence entre les deux équipes au classement FIFA.
C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Ils ont fait un beau parcours et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale, notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait que on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance, et c'est ça le plus important.
De leur côté, les observateurs s'accordent sur le défi que représente l'EFENEC, une équipe technique expérimentée qui vise le titre. Certains journalistes congolais voient cependant dans ce choc précoce une opportunité de mesurer leur ambition réelle et de prouver leur valeur contre l'une des meilleures sélections du continent. On écoute Joël Sapou, journaliste congolais.
L'Algérie a une très belle équipe, surtout avec Riyad Mahrez qui est là. On sent qu'il y a une nouvelle touche dans cette génération qui est justement là. Je crois que tout va devoir se jouer sur les plans tactiques, aussi techniques, parce que vous savez que l'Algérie est beaucoup plus forte sur les plans techniques et sur les plans tactiques aussi. L'équipe a des très bons joueurs qui ont plus de vitesse. Je crois que la République démocratique du Congo doit se préparer. En regardant cette équipe algérienne, elle n'est pas aussi la moindre. Quand on regarde la manière dont elle est en train de produire son football, avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de technicité, ça montre réellement que nous allons assister à un spectacle.
Spectacle, opposition de style, on va se mettre d'accord. Mourad Ouardi, cette équipe, Tazib l'a si bien dit, le match contre le Sénégal, ils ont laissé la possession aux Sénégalais. Ils ont eu des occasions, les Sénégalais, mais on a vu la force de cette équipe également, c'est son bloc défensif.
Moi, je dirais que ça sera encore un véritable test. Ici, il suffira plus de gérer l'avantage ou de contrôler un adversaire intérieur sur le papier. Non, je crois que la RDC représente un défi physique en premier lieu et tactique différent. Ils pressurisent tout le temps haut, exploitent les transitions rapides et possèdent des joueurs capables, je dirais, de changer le cours d'un match sur une action individuelle. On l'a vu contre le Sénégal. Donc pour cela, je dirais que notre équipe nationale doit retrouver ses cadres pour, bien sûr, garantir l'équilibre, mais également s'adapter au rythme imposé par un adversaire qui est robuste. Ce sera sous la maîtrise du milieu terrain, je dirais, sera crucial. Et la patience défensive et la patience dans la construction du jeu fera la différence. Donc, ça sera un match test au final, car bien sûr, l'équipe du, les forces du RDC, elles sont plus dans les rapides quand il y a perte de balle. La possession collective au pressing haut pour forcer des erreurs, ils vont pousser un petit peu nos milieux, nos défenseurs à penser à faire des erreurs pour qu'ils puissent reprendre tout de suite une action qui peut être dangereuse. Et ensuite, bien sûr, un milieu physique pouvant perturber le contrôle du rythme de jeu, parce que la balance dans les matchs, c'est le milieu de terrain, c'est l'équilibre, le cœur de l'équipe. Donc ils essayent de gêner, ils vont essayer de gêner le cœur de l'équipe pour qu'il ne peut pas trouver les solutions adéquates à se mettre dans des situations de jeu offensives confortables.
Mourad Wardi, je ne sais pas si vous avez eu le match contre le Sénégal, je l'ai vu le match contre le Sénégal, ce que j'ai noté, c'est que les Sénégalais ont eu la possession du ballon, se sont créés les occasions de but, et eux, sur une première attaque, ils arrivent à marquer. Efficacité. Après, ils ont géré, bon, ils se font reprendre 5 minutes plus tard, mais disons-le que cette équipe, vous lui laissez, il y a une faille, une occasion, elle marque.
Est-ce qu'ils vont jouer de la même façon? Aujourd'hui, c'est ça la première question que chaque entraîneur se pose. Il se dit, voilà, nous, auparavant, on avait peur des équipes qui jouaient avec un bloc bas. Aujourd'hui, et on l'a vu en deuxième mi-temps contre le Burkina Faso, ensuite, même avec une profondeur en deuxième mi-temps contre la Guinée équatoriale, on s'est vu un petit peu pris, dans une tourmente où on ne pouvait pas sortir. Hein. Donc je crois que les équipes ont compris avec le temps comment l'équipe nationale réagit. Dans ce contexte-là, qu'il faut trouver la meilleure façon de se mettre dans un match. Comment? La question, est-ce qu'on va attaquer? Est-ce qu'on va rester derrière? Est-ce qu'on est dans un bloc médian pour assurer rapidement les transitions défense-attaque? Donc je crois, sur cette optique, qu'il faut répondre. Je ne peux pas vous dire qu'ils vont reprendre ce qu'on a vu contre la Guinée, contre le Sénégal, parce que le Sénégal a fait le jeu, et trop souvent, la possession du ballon n'est pas un garant.
Je le dis toujours, c'était du 60-30, c'était du 60-30 sur la première mi-temps.
Oui, 60-30, mais il n'a pas été garant. Il n'a pas été garant parce que, comme le dit l'adage, quand on rate, on attend à ce qu'on fasse, de rattraper. Donc je crois que les entraîneurs vont se mettre dans une situation où ils vont se permettre de ne pas se découvrir, d'être dans l'attente, de se mettre dans la construction au fur et à mesure du temps, parce que le football, bien sûr, c'est un dispositif, c'est une démarche, mais c'est une gestion. Une gestion, elle est là, nous rentrons directement en compétition contre un adversaire. Sur papier, on se prépare, mais sur le terrain, on doit être rapide dans les solutions, et c'est, je crois que c'est cette force de compréhension rapide chez l'un et l'autre des entraîneurs qui peut faire basculer les choses.
Question. Il y a eu Nris qui a supervisé la République démocratique du Congo contre le Botswana. De Sabre est venu voir le match contre la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que ça peut apporter de superviser le troisième match?
Enfin, il a supervisé une autre équipe. Donc, quelque part, une équipe.
Ça, vous parlez pour De Sabre. Vous parlez pour De Sabre.
Pour De Sabre, oui. Pour De Sabre. Il a supervisé une autre équipe. Je ne sais pas si l'équipe du... Je crois que l'équipe du Congo a joué avec pratiquement son effectif. Hein. Donc,
Non, ils ont fait tourner 4 joueurs. Il y a eu 4 joueurs qui ont été changés.
Oui, Pas beaucoup, contrairement à notre
l'Algérie.
Équipe nationale qui
était
tournée 9 joueurs et ensuite d'autres joueurs. Hein. Donc je crois que l'un a su profiter, l'autre il est venu pour voir, je ne dirais pas les remplaçants, mais la profondeur de l'équipe. Donc il a une idée derrière la tête, la profondeur de l'équipe, elle joue comme ça, donc qu'est-ce que ça va être contre l'équipe équilibrée, l'équipe type, le 11 type. Ça fait quelque chose, mais je vais vous dire une chose.
Ça aide. Est-ce que ça aide dans la préparation du match?
Ça aide, mais aujourd'hui on a tous les moyens.
Non, oui, avec la vidéo, c'est fini. Ça.
Oui, on a tous les moyens. C'est pas l'œil qui va observer, mais c'est les chiffres, la contenance vidéo, les répétitions des actions. On s'attable et on discute, on voit les erreurs. L'entraîneur discute avec les joueurs pour mieux décortiquer, pour que les joueurs sachent sur quel pied vont-ils danser le jour du match. Donc je crois que tout ça, c'est bien sûr observé directement, oui, mais aujourd'hui les moyens technologiques permettent à tous les entraîneurs de se mettre dans le match avant le match.
Très bien, je vais vous proposer d'écouter également parce que c'est important. On va retrouver Islam Terzib. Islam, mais les supporters congolais, c'est vraiment des chambreurs, hein. C'est les numéros 1 en termes de chambrage.
Et oui, et contrairement à leur sélectionneur, les supporters congolais affichent une confiance débordante, fort de la demi-finale atteinte lors de la dernière CAN. Ils s'attendent à ce que les Léopards ne fassent qu'une bouchée des Fennecs.
Les Algériens parlent beaucoup, les Congolais parlent beaucoup. Duel de la bouche, mais en tout cas... On va les détruire, Togo, Fimoukakamo. On
va passer le message au monde entier, surtout aux Algériens. Regardez-moi dans les yeux, j'ai dans les yeux. Faites attention, le Léopard est de retour. Faites gaffe. Donc on commence, Fimou.
Les Algériens, il y a un adage qui dit, si poisson n'est pas dans l'eau, c'est qu'il est dans sauce. À vous de choisir.
Vous avez entendu, Mourad Wardi, comment est-ce qu'ils nous chambrent, les Congolais, mais dans un bon esprit, hein, ça reste sympathique.
Hein. Ah, moi, j'étais en train de voir deux boxeurs qui disputaient avant leur combat. Je crois que c'est légitime, chaque équipe leurs supporters, ils ont leur réaction. Ça sera un match, bien sûr, important.
Sur le terrain et dans les tribunes.
Oui, dans les tribunes, je crois pas qu'ils vont nous gagner. Hein.
Ah oui, on est numéro 1 dans les tribunes en termes d'ambiance. Hein, on est numéro 1.
Il peut le dire, il peut le raconter, il peut le débluffer, mais la réalité, tout le monde la connaît. Hein. On est même dans les matchs qui nous concernent pas. En Europe, en Amérique, dans tous les coins du monde. Donc, je crois que sur ce point-là, on est les favoris. Donc, Le match, comme je vous l'ai dit, Mahmar, ça sera une paire, une autre paire pour mieux voir, pour mieux décrire, pour mieux se projeter. Ce qui est sûr, Mahmar, et laissez-moi vous le dire,
il y a déjà une projection.
Il y a une suite pour cette équipe nationale, il faut le dire, parce que peut-être personne n'en parle. Oui, on attend tous que l'équipe nationale encore va se mettre dans de bonnes conditions pour se qualifier pour encore plus loin et aller plus loin. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on voit un potentiel de jeunes hein, se mettre dans la partie et dire à tout le monde que la suite de notre équipe nationale, pas uniquement pour ce tournoi, mais pour le futur, parce que je crois qu'une équipe nationale...
C'est pas sur un tournoi, c'est sur la durée, c'est sur la durée.
Et elle n'a pas le droit de mourir, donc il faut penser à réactiver ce qu'on a avec d'autres joueurs qui peuvent donner encore du tonus à notre 11. Donc c'est déjà un pari gagnant de la part de Petkovic, parce qu'il s'est dit, on lui a assigné un objectif d'aller au huitième de finale, maintenant on cherche encore plus.
Alors, si on sortait pas, si on n'allait pas au huitième de finale... Si on n'allait pas en huitième de finale, ça aurait pas, je le dis, hein, les deux dernières éditions, on n'est pas passé, c'est pas normal, et heureusement, c'est tout à fait normal qu'on passe en huitième de finale. Très bien. Vous restez avec nous, je vais terminer juste avec cette statistique, les chiffres avec vous. jamais deux sans trois islam.
Oui, l'Algérie et la RDC se sont rencontrées à 6 reprises par le passé. 4 matchs se sont soldés par un nul et l'Algérie a enregistré 2 victoires. Donc l'adage dit...
2 victoires dans quelle compétition? Rappelons-le, il faut donner les compétitions.
Alors, une victoire dans une en Coupe d'Afrique des Nations et un match nul.
Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1988, je le rappelle, et l'Algérie s'était imposée 1-0, but de Kader Farhawi, qui avait offert les 3 points à l'Algérie. Et puis il y a le dernier match en Coupe d'Afrique des Nations, remonte à 2000, c'était au Ghana, où l'Algérie avait fait match nul, 0-0. Dernière confrontation avec la RDC, 2019, sous l'ère Belmadi, on avait fait match nul, 1-0. Donc, ils nous ont jamais battus. Oui. C'est ce qu'on retient.
Parfait. Donc, mais jamais 203.
Jamais 203, on y croit. Est-ce que ces chiffres, ces stats, eh bien, ça peut aider dans le discours de l'entraîneur? On le dit aux joueurs, Mourad Wardi.
Ah, les stats restent.
Ah, moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les stats. Et ça fait parler. Ça...
Sincèrement, les stats.
Pourquoi je dis, rappelez-vous, je me rappelle toujours, j'ai toujours dit que, pas toujours dit, ça c'est prouvé, le Cameroun, chaque équipe a sa bête noire. Le Cameroun est notre bête noire, les Lions indomptables. Est-ce qu'on serait pas la bête noire de la RDC? Je pose la question.
Non, mais oui, alors, si on peut l'être, mais ça sera pas le leitmotiv. Le leitmotiv, c'est se mettre dans le match et avoir tous les atouts de son côté. Parce que si on va avec le jamais 203, on va attendre le 3 sans fournir d'effort. Donc je crois que quelque part, oui, les chiffres, ils sont là. Mais la réalité, c'est 90 minutes de temps. C'est une organisation, c'est une mise en place rapide, c'est une gestion, c'est tout ça un match de football. Tous les matchs ne se ressemblent pas. Parfois, on est la bête noire et des fois, on se voit un peu loin de ce contexte-là. Donc, moi, je suis adepte des choses qui doivent se faire convenablement et ne pas chercher ailleurs. Donc, la logique veut que notre équipe nationale, elle est là. Elle a montré de très bonnes dispositions. Nous espérons qu'elle va encore aller plus loin que possible dans cette compétition.
Merci Mourad Wardi pour toutes ces explications, pour cet éclairage également. On va parler d'arbitrage et du comportement de nos arbitres sur cette première partie de Coupe d'Afrique des Nations avec Hamza Rahmouli.
À la fin du premier tour de cette CAN, l'heure est de faire un bilan sur l'arbitrage algérien. Avec deux gros potentiels, Mustapha Rogbel et Lahlou Bambarahem, ainsi que deux assistants, Akram Zanghouni et Adel Abban, l'arbitrage algérien s'est illustré encore une fois. Lahlou Bambarahem, censé être à la VAR, s'est vu diriger un des chocs de cette CAN entre le Sénégal et la République démocratique du Congo en tant qu'arbitre principal, assisté de Adel Abban et Akram Zanghouni, alors que Mustapha Rogbel a été désigné quatrième arbitre. Un match très important puisque le quatuor algérien a dû gérer le match sur le plan sportif, mais également faire un équilibre entre deux lobbies, l'un sénégalais et l'autre congolais, devenu très important dans les rouages de la CAF. D'ailleurs, en plus du secrétaire général de l'instance, qui est de la République démocratique du Congo, en l'occurrence Véron Mossango, le président de la commission d'arbitrage de la CAF est aussi un Congolais, à savoir Olivier Safari Kabene. Meilleur arbitre africain de l'année 2019, le Camerounais Sidi Alioum analyse la prestation de Lahlou Bambara.
Vraiment, s'il faut donner la note à M. Lalou, je donnerai 8,5 sur 10. Donc, vraiment, il a maîtrisé son match. Il a rendu ce match très beau. Donc, mais l'arbitrage était parfait. Il était dans toutes ses actions, dans toutes les situations difficiles. Il était à côté. En tout cas, il a pris le match trop facile. Il était confiant et il était trop près des actions et ça a rendu ce match trop facile. Donc, vraiment excellent match. Et l'arbitrage était vraiment parfait. Okay, c'est un monsieur qui est trop simple, qui ne panique pas. Il est trop expérimenté. C'est ça qui a rendu le match trop facile pour lui.
Mustapha Rogbel, pour sa part, a dirigé lui aussi un choc mettant aux prises la Côte d'Ivoire au Cameroun, où il s'est illustré lui aussi. Analyse de Sidi Alioum.
C'était un match vraiment très tendu, un très grand match qui a aussi trouvé un très grand arbitre. Vraiment un arbitre posé, un arbitre expérimenté, un arbitre qui a toutes les potentialités. Il a su maîtriser le match. Et pour lui, c'est un ancien de ce genre de match. Donc, il a joué plus que ces matchs-là. Donc, pour moi, franchement, il a dû maîtriser ce match-là. Qu'il était calme dans son jeu, il a essayé de faire tout le maximum possible pour qu'il n'y ait pas de problème. Il était dans toutes les situations. Donc, bref, il a géré le match comme tout un bon arbitre, l'un des meilleurs arbitres africains. Pourquoi pas le meilleur? Parce que moi, je l'estime beaucoup. Il prend tous les matchs au sérieux.
Mohamed Zekerini, ancien arbitre international, estime que les arbitres algériens ont été à la hauteur, estimant même qu'ils ont été parmi les meilleurs arbitres.
Nos deux compatriotes, Lahlou Ben Brahim, il a fait Congo-RDC avec Sénégal. C'était un match intense, c'était un grand match, qui a démarré à 100 à l'heure. Il a été en toute franchise, il a été à la hauteur avec ses deux assistants, Abben et Akram Zarhouni. Et il y avait comme quatrième arbitre, Mustapha Orbel, qui lui a donné un coup de main. Nos quatre arbitres, ils étaient à la hauteur sur le terrain, malgré l'intensité de match, malgré l'influence de l'extérieur de ce match, parce qu'on sait très bien que le Congo a des membres au bureau exécutif, que le Sénégal a des membres au bureau exécutif et a des membres à la commission d'arbitrage, mais nos arbitres, ils étaient à la hauteur et Lahlou Ben Brahim, il a fait un match sans faute. L'autre match, Cameroun-Côte d'Ivoire, Mustapha Orbel aussi, c'était un match très difficile, c'était un match sans arrêt, à 100 à l'heure, mais Mustapha Orbel, vu sa condition physique, vu ses prestations auparavant, il a fait un excellent match, il était présent tous les duels, il était présent dans toutes les actions, il était présent aux environs 16m50, sans placement, sans déplacement, d'ailleurs, sans déplacement. Partie. Les deux équipes, les Camerounais et l'équipe de Côte d'Ivoire, ont salué Mustapha Orbel.
Mohamed Zekerini partage aussi l'avis des spécialistes qui pensent que les arbitres algériens ont été moins utilisés lors de ce premier tour, contrairement à d'autres, malgré leur bonne réputation.
Oui, vous pouvez dire ça. Étant donné que certains arbitres ils ont fait deux matchs, exemple Pacifique, exemple Ndala, exemple, ils ont fait deux matchs, oui, oui, sur les 36 matchs qui se sont déroulés, nos arbitres, ils n'étaient pas vraiment utilisés, je ne sais pas pourquoi, en toute franchise, je ne sais pas quelle est la méthode de désignation de la CAF, comment ils ont désigné, je ne sais pas vraiment, c'est la première fois où nos arbitres ne sont pas vraiment utilisés dans cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout l'un des meilleurs 8 arbitres au monde, Mustapha Orbel, c'est un excellent arbitre, il est très bien coté à la FIFA. Je ne sais pas vraiment, avec le temps, on va savoir pourquoi la non-utilisation de nos arbitres, même si Lahlou Ben Brahim, quand il est parti de l'Algérie, il est parti comme arbitre VAR, mais la CAF a vu que Ben Brahim peut l'utiliser sur le terrain, mais Mustapha Orbel n'a pas été vraiment utilisé. Je ne sais pas pourquoi, mais on va savoir avec le temps.
Peut-on s'attendre à voir Mustapha Orbel, un des 8 meilleurs arbitres au monde, diriger la finale? Élément de réponse avec Mohamed Zekerini.
En toute franchise, très difficile, parce que la désignation de l'arbitre de la finale, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup, surtout si le pays hôte se trouve en finale. C'est impossible que nos arbitres arbitrent la finale. Il faut qu'on soit clair, net et précis. C'est très difficile. Mais si le pays hôte ne sera pas en finale, peut-être que Orbel ou Ben Brahim et nos arbitres peuvent faire la finale, mais en toute franchise, Hamza, c'est très difficile. Avec l'injonction de certains responsables influents à la CAF, de certains dirigeants, de certains membres de commission d'arbitrage, il y a beaucoup de choses qui minimisent la présence de nos arbitres à la finale.
Il y a lieu de signaler que Lahlou Ben Brahim a fait deux matchs en tant qu'arbitre VAR, à savoir Ouganda, Nigeria et Mali, Zambie, alors que Mustapha Orbel a été à la VAR à l'occasion du match Gabon, Cameroun.
Il est avec nous, notre arbitre consultant, M. Halalchi, bonjour.
Bonjour, monsieur Mamor. Bonjour, chers auditeurs.
Bonne année, meilleurs vœux également, monsieur Hlelchi. Monsieur Hlelchi, est-ce que on voit que nos arbitres font l'unanimité sur ce premier tour, même s'ils n'ont eu qu'un seul match à diriger à l'image de Rebel?
Oui, mais notre cher frère et ami Zéna, pour résumer, il a te dit, j'ai rien à rajouter. Il a bien résumé les choses, comment ça se passe au niveau de la CAF. C'est vrai, on est inquiet pour nos arbitres. D'ailleurs, j'ai déclaré avec vous la dernière fois, lors de la dernière édition, la CAF a stoppé Rebel. Rebel n'a pas continué l'aventure à la dernière CAN. Il y avait aussi Gamoua, c'était sa première participation. Et Balbaram, c'est vrai.
Également, il n'a fait qu'un seul match.
Voilà, exactement. Alors, cette fois-ci, on ne veut pas qu'on va voir le même scénario que l'édition précédente, parce que nos arbitres, c'est des valeurs justes, que ce soit Gherbel, Belbraham et même nos assistants, Gherbel et Lahlou Belbraham sont utilisés même au niveau de la FIFA. Belbraham.
Zakarini l'a dit, Gherbel, voilà. Il fait partie des 8 meilleurs au monde.
Exactement, Gherbel, c'était une valeur sûre depuis des années, ça ne date pas seulement cette saison. Ça fait des années, Rebel fait ses preuves au niveau international, les 10e de la FIFA surtout. Alors, on ne sait pas comment ça se passe au niveau de la CAF.
On attendra pour voir. Nous, on va parler avec vous, M. Hlelchi, de l'arbitre Algérie-République démocratique du Congo. On sait que c'est l'Égyptien Mohamed Maarouf. Mohamed Maarouf, lui, il a une petite histoire. On a été, rappelons-le, il avait fait polémique lors du match de quart de finale de la Coupe de la CAF entre Berkane et le club libyen. Il y avait eu un but, exactement. Il y avait eu un litige, et on le retrouve sur un huitième de finale. Vous êtes étonné ou pas?
Bon, étonné, je ne sais pas, mais je peux vous dire oui, je confirme le match qui a arbitré je crois, la Coupe de la CAF contre un club libyen. C'était le but de la victoire de l'équipe adverse. Le match est allé jusqu'à le temps additionnel. Le but a été marqué entaché d'une faute. Le but qui a été marqué entaché d'une faute, il a été validé. Ça, c'est un match. Aujourd'hui, on est dans une autre compétition. Moi, je dis, pour l'information, M. Mahmoud,
oui.
Vous savez que la CAF a décidé lors de ces dernières compétitions et tournois d'éviter de désigner des arbitres lorsqu'il y a une équipe de la même zone.
Très bien.
Il y a un point d'interrogation. Pourquoi cet arbitre est désigné pour le match de l'Algérie alors qu'il est de la même zone.
Il fait partie de la même zone.
Alors, on a la CAF a décidé d'éviter ce genre de désignation. Ça, c'est le point que
alors, donc, c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Pourquoi?
Exactement, M. Mahmoud. Oui, ça, c'est pour ça que je vous dis que cette information, c'est pas normal. Alors, il y avait d'autres tournois comme le Chang, il y avait nos arbitres qui étaient à la compétition et ont évité de désigner de nos arbitres à des matchs de la même zone.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet arbitre égyptien dont je rappelle le nom, qui a été désigné pour ce match contre
Mohamed Maarouf.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant Mohamed Maarouf?
Bon, Mohamed Maarouf, c'est un arbitre expérimenté. À l'âge de 40 ans, il a un vécu dans le continent, même au niveau de local en Égypte. Il n'a pas une grande histoire avec l'équipe nationale. Il a arbitré seulement deux fois à l'équipe nationale. C'est des matchs amicaux. On a perdu avec le Cap-Vert chez nous et on a perdu aussi avec contre la Tunisie. On a gagné contre la Tunisie à Tunis. Avec les clubs, JSK, l'USMA, le dernier match qu'il a arbitré, il a arbitré l'USMA à l'extérieur. C'était l'USMA a gagné le match. Bon, on ne peut pas juger un arbitre avant la rencontre parce qu'il y a.
Tout à fait.
Les matchs, c'est vrai que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, ça c'est clair. Chaque match a sa particularité, chaque rencontre est unique et différente, et même il y a des scénarios imprévisibles. que ce soit pour les équipes ou bien pour les arbitres. Et les arbitres, ils se préparent pour ce point important. Alors,
ben, très bien. Déjà, on a une idée précise. Il a l'expérience, 40 ans. On l'a déjà eu sur deux matchs de l'équipe nationale. On est étonné du fait que la CAF ait désigné un arbitre de la même zone. Voilà. Je rappelle parce qu'il est égyptien. Et comme vous l'avez si bien dit, vous nous avez décrit un peu son parcours. Eh bien, on attendra pour voir, et vous l'avez très bien résumé, chaque match a sa propre particularité, sa propre histoire. Merci, monsieur Halalji.
Je vous en prie, monsieur Marmal.
Merci encore une fois. Voilà ça, on sait, donc on a présenté les deux équipes, l'arbitre de la rencontre, les forces en présence. Maintenant, on va revenir sur les tops et les flops du premier tour. Avec vous, Rostom Yahya Chérif, bonjour.
Bonjour, Marmal, avec les mondialistes qui se sont qualifiés pour le prochain tour. À l'instar de l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie et le pays hôte qui ont franchi cette phase de groupe. La sélection algérienne qui s'est particulièrement distinguée en réalisant un sans faute. Avec 3 victoires en 3 matchs, eh bien l'Algérie est la seule équipe qualifiée pour le Mondial 2026 à réussir cet exploit lors de cette phase de groupe. Vous allez me dire, il y a aussi le Nigeria qui a réalisé un sans faute. Mais le Nigeria n'est pas qualifié pour le Mondial 2026, éliminé justement par la République démocratique du Congo en barrage.
Très bien. Alors, on va rester justement sur les... Ça, c'est les équipes qui se sont distinguées. Une phase de groupe qui n'a pas été exempte de surprise. En termes de surprise, qu'est-ce que vous retenez?
Alors, comme souvent à la CAN, cette phase de groupe n'a pas été exempte de surprise. Le Soudan, qui a réussi l'exploit de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes avec 3 points, une seule victoire, 2 défaites et aucun but marqué. On va nous dire, mais oui, le Soudan a battu la Guinée équatoriale. Mais c'était un but marqué contre 100 camps. Aucun joueur soudanais n'a marqué de but. La Tanzanie, qui s'est qualifiée pour la première fois 8e de finale de son histoire de la CAN, mais dans un groupe où ils ont eu que 2 points et qui ont montré un visage relativement terne. À l'inverse, plusieurs sélections quittent la compétition avec des regrets. Le Gabon ou les Comores, qui n'ont jamais réellement trouvé le rythme. Alain Giresse estime que les favoris ont fait le nécessaire, mais reste particulièrement déçu par le parcours du Gabon, la sélection qu'il avait entraînée entre 2006 et 2010.
Après ce premier tour, on peut, si on fait un bilan, en tout cas, ce que l'on voit pour les huitièmes de finale, c'est que les grands pays africains sont là, sont en rendez-vous. Alors je dirais qu'au niveau des tops, je pense que beaucoup d'équipes ont répondu à l'attente, donc on ne peut pas en distinguer l'une ou l'autre. Et l'Algérie a l'assuré. On a démontré quand même que le potentiel en termes, un potentiel joueur, puisque la preuve sur le dernier match, ils ont pu faire tourner et le résultat a été au rendez-vous. Donc ils sont bien, je pense que voilà, ils sont tout à fait dans la lignée de ce qu'on peut attendre. Certes, ils ont certainement un huitième, l'un des huitièmes les plus compliqués, mais la RDC dira la même chose. Pour affronter l'Algérie. Par contre, sur le plan des flops, moi j'ai un petit peu sentiment personnel puisque c'est le pays avec lequel j'ai connu l'Afrique, c'est le Gabon. 3 défaites. Voilà, là j'avoue que c'est une performance qui est en dessous de ce que pouvait attendre et prétendre cette équipe pour le pays. Voilà, c'est le seul regret. Après, on ne peut pas dire qu'il y ait de surprise dans un sens ou dans l'autre.
On va rester avec le Gabon. Une série de sanctions envers la sélection du pays après son élimination du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre et de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. C'est le ministre des Sports, Simplice Désiré Mamboula, qui l'a annoncé dans un message diffusé à la télévision gabonaise.
Le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwelemanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, le gouvernement invite la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités.
Sauf qu'il pourrait y avoir ingérence.
Il peut avoir cette lecture d'ingérence. Mais si vous avez entendu, il demande à la fédération de prendre toutes ses responsabilités. Le ministre des Sports gabonais annonce la dissolution de l'équipe nationale et la suspension des joueurs ou mise à l'écart des deux joueurs. Mais dans le même temps, il va être relayé par la fédération. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'ingérence. Il donne le « là » et la fédération va appliquer. Ils vont le faire le plus normalement du monde.
Et justement, on va écouter une nouvelle fois Alain Giresse, l'ex-sélectionneur du Gabon, qui commente cette décision de du ministère des Sports.
J'ai vécu d'une façon tristement un petit peu la performance de l'équipe du Gabon. Maintenant, je vois qu'une prise de décision du ministère en disant qu'ils suspendent l'équipe nationale, oui, ben ça veut dire surtout qu'il faut remettre de l'ordre, remettre en place une organisation, un fonctionnement de l'équipe nationale. Ça passe par là. Je crois qu'il y a eu des ratés en ce qui concerne le Gabon dans tout ce qui est l'approche et ce qu'on doit attendre pour une équipe nationale, dans sa préparation, dans les conditions de se préparer. Voilà, donc pour le moment, c'est une décision qui est forte, évidemment, qui, j'espère, trouvera un accès, parce qu'un pays de football comme le Gabon, sans avoir une équipe nationale pour le représenter, c'est plus que regrettable.
Et on va terminer sur ce premier tour avec le ratio de buts inscrits. On est quasiment sur le même ratio par rapport à la dernière édition qui s'était déroulée en Côte d'Ivoire.
La dernière édition, c'était 89 buts. Cette fois-ci, sur l'ensemble des matchs de groupe, les 36 matchs disputés, 87 buts ont été inscrits, soit une moyenne supérieure de 2,4 buts par rencontre. Le Nigeria s'est montré le plus prolifique, affichant une efficacité redoutable. 8 buts inscrits, soit un but de mieux que l'Algérie et le Sénégal, qui ont marqué 7 buts. Et l'Algérie, l'Égypte et le Sénégal, avec la République démocratique du Congo, n'ont encaissé qu'un seul but.
Eh bien voilà, vous avez les chiffres également de ce premier tour, donc même ratio que par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On va terminer avec les huitièmes de finale. Les affiches de ces huitièmes de finale, on ne va pas décortiquer tous les matchs, mais quelles sont les affiches qui ont retenu votre attention, Ali Hamouche ?
Bonjour, Marc.
Bonjour.
Tout d'abord, il y a cette, on va dire, en tête d'affiche, c'est ce choc entre l'Afrique du Sud et le Cameroun. Le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, alors que l'Afrique du Sud a remporté une seule fois le trophée. C'était à domicile en 1996. Et vous aimez bien les chiffres, Mamar. Il faut savoir que le Cameroun n'a jamais battu l'Afrique du Sud. Donc, c'est 0 victoire pour le Cameroun, 2 victoires pour l'Afrique du
Sud.
Alors,
la grande question, est-ce que cela va continuer ? On aura la réponse.
On le saura, donc...
C'est quand le match ?
Le match Afrique du Sud-Cameroun, c'est...
Samedi ou dimanche ?
Dimanche.
Dimanche, très bien. Il y a eu combien de confrontations entre les deux équipes ?
Il y a eu 5 confrontations, donc 2 victoires pour l'Afrique du Sud et 3 matchs nuls. Et en Coupe d'Afrique, la dernière confrontation entre les deux sélections s'est soldée par ce cinglant 3-0 pour le Cameroun, pour l'Afrique du Sud face au Cameroun. Sur cette affiche, on va écouter un technicien qui connaît bien le Cameroun pour y avoir exercé, pour avoir dirigé les Lions indomptables, c'est Denis Lavane.
Le match entre l'Afrique du Sud et le Cameroun me semble très, très serré entre les deux équipes. Je pense que ça ne se jouera pas grand-chose, mais ça risque d'être un match intéressant parce que les deux équipes vont certainement jouer plutôt offensif. Et donc, ça risque d'avoir un match avec pas mal de rythme, pas mal d'intensité, qui va se jouer sur des détails. Entre les deux équipes, je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Moi, je vois plutôt l'Afrique du Sud se qualifier, mais on va voir ce que le Cameroun s'est rajeuni. On va voir ce que ça va donner, mais je vois plutôt un bon match avec l'Afrique du Sud favorite.
Alors, ce qui est intéressant, Afrique du Sud favorite, la seule fois où ils les ont affrontés, c'est en 96. Et l'Afrique du Sud a été sacrée championne d'Afrique.
Championne d'Afrique.
On va voir s'il va avoir un bégaiement de l'histoire.
Donc, c'était la seule rencontre dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu 2 matchs amicaux qui se sont soldés avec la victoire de l'Afrique du Sud, 3-2. Un match nul entre les deux formations et en éliminatoire de la CAN. C'était à 2 reprises. Les 2 matchs se sont soldés par 2 matchs nuls. La deuxième affiche, c'est Mali-Tunisie. Elle a aussi un autre chiffre, la Tunisie qui n'a jamais battu le Mali à la CAN. 2 matchs nuls et 2 défaites. donc pour les Tunisiens dans, en Coupe d'Afrique. Le dernier match, donc, c'était un match nul lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Un but partout. Et le premier match, c'était en 1994 avec la victoire du Mali. 2-0. Et sur cette...
Ça n'a pas empêché la Tunisie de gagner le titre.
Hein. Absolument. Donc la Tunisie qui a été sacrée championne d'Afrique. Et donc la Tunisie qui, sur cette CAN, n'a pas vraiment convaincu, hein, notamment en Tunisie. D'ailleurs, la sélection tunisienne qui a été sifflée par ses supporters lors d'une rencontre de
cette... Non, en 94, il n'avait pas gagné. C'était en 2004.
Ils l'ont organisé, mais ils ne l'ont pas gagné.
Ils l'ont pas gagné. C'était en 2004. 2004. Autant pour moi.
Donc la Tunisie, donc les joueurs qui ont été sifflés puisque par le public tunisien d'ailleurs, Tarablissi, qui est décrié par les médias tunisiens. Et on va écouter sur ce match Bernard Simondi.
La Tunisie risque d'avoir un peu plus de difficultés face à une équipe malienne qui a de la qualité et qui n'est pas reconnue à sa juste valeur jusqu'à présent, parce qu'elle n'a pas laissé et démontré des choses constantes, dans une constante de résultats. Mais il y a du talent, il y a une qualité collective, il y a de l'ambition, il y a beaucoup de choses qui font que le Mali est une équipe redoutable. Je dis tout cela parce que la Tunisie m'a semblé un petit peu en dessous de ce que je pouvais en attendre. Je pense qu'ils ne sont pas au niveau que pourraient les attendre. Et donc, je crois que cette rencontre-là sera beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus incertaine et indécise que Sénégal-Soudan. Attention, face au Mali, n'y allez pas sans avoir la détermination nécessaire et sans avoir la qualité qui est nécessaire d'avoir pour mettre à mal cette équipe malienne. Je vois un résultat serré et peut-être qu'en termes d'expérience, si le match va au bout du bout, la Tunisie peut en tirer profit.
Et la dernière affiche, c'est ce match entre la Côte d'Ivoire, le tenant du titre, et le Burkina Faso. C'est un derby entre les deux sélections. 17 matchs disputés dans toutes compétitions confondues. Et la Côte d'Ivoire qui a un ascendant psychologique avec 8 victoires contre 2 victoires seulement pour le Burkina. Et la dernière rencontre dans une Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2012. Une rencontre qui s'était soldée par une victoire 2-0 en faveur des éléphants. Sur, on va dire les aspirations de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter l'architecte de la victoire en 2023, Emers Faye.
Avant de venir, on savait que déjà on avait un gros groupe, un groupe difficile. On savait que ça allait être compliqué de sortir de ce groupe. Après, la route est longue, tous les gros sont là. Tous les gros ont montré qu'ils étaient prêts, qu'ils voulaient aller chercher cette CAN. Donc la route est encore très 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 longue, mais ça fait longtemps qu'on est préparé pour souffrir. Comme je l'ai dit, le groupe est bien, le groupe en est conscient. On va venir petit à petit.
Donc c'était Emers Faye sur ce match face au Burkina Faso, et le dernier match entre les deux sélections, c'était en 2022, un match amical qui s'est soldé par une victoire des étalons 2-1. Et pour le reste des huitièmes de finale, Mamar, donc on aura Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Nigeria, Mozambique. Sur les trois matchs, le Sénégal, l'Égypte et le Nigeria qui partent favoris face à des outsiders.
Le Nigeria qu'on pourrait retrouver en quart de finale. L'Algérie, ça sera ce mardi à 17h en direct sur les ondes. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, à la réalisation Fouad Hamadi. Vous avez rendez-vous avec le sport dès 15h. Bon appétit dans quelques secondes. Place à la rédaction.